Chapitre 5. Damian leur ouvrit lui-même la porte.
« Alors, comme ça, Mémé Bou l'a rendu l'âme »
questionna-t-il d'une voix allègre. « Non, elle est encore vivante, » répondit Agatha. « Comment êtes-vous au courant ?»«
Le téléphone arabe de Harbi a fonctionné à plein régime. À ce qu'on m'a raconté, elle était morte et enterrée dans une des parcelles, exactement comme Pita. »«
Votre téléphone a tout faux. Elle a été jetée au fond d'un vieux puits, dans un des potagers. »
« Vraiment ? Dites donc quelle bonne blague ! Cui, cui, cui ! Boulez dans le puits ! Entrez ! Ne restez pas là à me fusiller du regard ! Je n'ai jamais aimé cette femme, une vraie vipère !»
Il les guida jusqu'au jardin. « On ne pourrait pas rester au chaud ?» implora Agatha. « Il fait froid aujourd'hui. »«
Ah là là, on devient frileux avec l'âge, c'est bien connu. Soit, allons au salon. »
« Je vous déteste !» siffla Agatha dans son dos.
« Oh, la vilaine! Allons entrer !»
Le lierre occultait la plupart des fenêtres et assombrissait le salon. Damian alluma quelques lampes. Un portrait à l'huile du défunt Lord Bellington, de piètre facture, les toisait. Damian leur proposa un apéritif.
« Rien pour Agatha !» déclara Charles. « Elle conduit. »«
Un seul verre, c'est permis. Un gin tonic, s'il vous plaît. » Charles, ignorant le coup d'œil menaçant d'Agatha, demanda un whisky soda.
« Et maintenant, » commença Agatha, « la police sera là d'un instant à l'autre. Réfléchissez vite. Pourquoi, Mrs. Bull ?»«
Comme je vous l'ai dit, c'est une véritable langue de vipère. Ça n'a probablement rien à voir avec les autres meurtres. »«
Puis-je vous rappeler que votre sœur vous a accusé d'avoir tué votre père ?»«
C'était prévisible, non ?»«
Pourquoi ?»
Damian prit les verres sur une desserte d'époque.
« Elle veut ouvrir un refuge pour Anne malade. » Elle m'a réclamé de l'argent. J'ai refusé. Elle jouit d'une pension très généreuse. Pas suffisante, paraît-il. Elle a hurlé, trépigné de rage. Voilà, ai-je répondu à votre question.
À l'une d'entre elles, répliqua Agatha. Est-ce que la police a interrogé Lady Bellington sur les déclarations de Mrs. Bull qui prétend l'avoir surprise à la cave une seringue à la main?
36 000 fois.
Mais ma mère se trouvait dans une clinique à Oxford.
Tout le personnel peut témoigner qu'elle n'était pas autorisée à sortir. « Mais pourquoi Mrs. Bull aurait-elle inventé cette histoire ?» demanda Charles. « Mon père envisageait une réconciliation avec ma mère. Il lui a écrit. Elle a posé comme condition le renvoi de Mrs. Bull. Je suis sûre que cette vieille bique de Bull a lu la lettre. Elle lisait toujours notre courrier. »
Agatha sentait croître son agacement. Damian avait en permanence l'air de trouver l'affaire fort divertissante. « Vous ne voyez vraiment pas qui aurait pu vouloir assassiner votre père ? Vraiment pas la moindre idée ?»«
Non, sans quoi je n'aurais pas eu recours à vos services. Penchez-vous un peu sur les villageois. Ce sont des gens tordus. On crie haro sur les mariages consanguins de l'aristocratie et on ne regarde jamais ce qui se passe dans ces petits villages perdus dans la campagne, loin des itinéraires touristiques.
Bon, alors suggérez-nous donc un point de départ. »
« Essayez Mary Feathers, à Lime Cottage. C'est elle qui préside le comité des jardins. »
Mais à leur retour au village, la police était en pleine enquête de voisinage.
« Nous reviendrons ce soir, » décida Charles.
« Comment ça se passe avec Gérald ?»«
Ce type est écœurant. Il est venu me demander de l'employer et ensuite, il s'est laissé appâter par les offres de Wilkes. »«
Je suis surpris que tu ne sois pas pendu assez basque, Agatha. » Tu as toujours eu un faible pour les minables.
Dans ton genre, par exemple ?
Oh, allons manger un morceau.
Quand ils revinrent à Harbi dans la soirée, un mince croissant de lune illuminait les quelques maisonnettes qui composaient le hameau. Sous son toit de chaume, Lime Cottage semblait s'abîmer dans une rêverie mélancolique au bord de l'étang du village, où se miraient, telle une paire d'yeux, les deux fenêtres à petits carreaux de sa façade. Agatha frappa avec le heurtoir de cuivre. La porte s'ouvrit.
« Mrs. Feathers est là ?» hasarda Agatha.
« C'est moi. » Sa chevelure d'un noir de jais relevé sur la nuque encadrait des traits harmonieux et sereins ainsi que de grands yeux sombres frangés de longs cils. Elle portait un pullover de cachemire vert et une jupe de velours noir. On ne se serait nullement attendu à voir une telle femme à la tête du comité d'attribution des parcelles. Agatha fit les présentations et expliqua le motif de leur visite. Mary Feathers les introduisit dans un petit salon
où un feu de bois crépitait joyeusement dans l'âtre. Des bibliothèques occupaient trois des murs. La pièce était meublée d'un confortable canapé et de deux bergères. Agatha était surprise. Ce n'était pas là une fille de la terre aux mains calleuses. De fait, celle de Mary était douce et blanche. « Nous voudrions que vous nous parliez des villageois qui cultivent les jardins potagers, » dit Agatha. Charles haussa les sourcils en décelant une pointe d'animosité dans sa voix. À dire vrai, Agatha éprouvait un brusque sentiment d'infériorité devant cette interlocutrice si belle et si tranquille. Elle avait soudain conscience qu'elle n'avait pas rafraîchi son maquillage et que sa jupe la serrait à la taille. « Je ne vois personne parmi nous qui ait pu commettre un acte aussi abominable contre Mrs. Bull. » Elle avait l'accent suave et caressant du Gloucestershire.
« Vous n'êtes pas en cause, bien sûr, » sourit Charles,
qui s'attira un regard incendiaire d'Agatha. « Est-ce que Mrs. Bull avait une parcelle ?» reprit-elle. « Non, mais elle venait souvent acheter des légumes. Le samedi, plusieurs des exploitants disposent des éventaires au bord de la route. » « Il n'appréciait pas Mrs. Bull ?»
En toute franchise, elle n'était pas aimée. Tout ce qui l'intéressait, c'était les ragots.
« Mr. Feathers n'est pas là ?»
interrogea Charles. « Mon pauvre Roger est mort il y a 3 ans, hélas. Crise cardiaque, brutale. Mais pour en revenir à Mrs. Bull, l'ennui, c'est qu'elle s'était mise à dos la plupart des habitants du hameau. Cela dit, je ne vois vraiment pas qui aurait pu essayer de la tuer. » Et d'ailleurs, il a sûrement fallu plus d'une personne pour la traîner jusqu'à ce puits et l'y jeter. Il y a Mr. Sander, à Peartree Cottage, qui passe l'essentiel de son temps dans le cabanon de sa parcelle. Charles, je veux dire Sir Charles.
Charles, je vous en prie.
Eh bien, Charles, la malheureuse devait hurler comme une possédée. J'ai essayé d'interroger Mr. Sander, intervint Agatha. Il m'a claqué la porte au nez. Voyez-vous quelqu'un d'autre ?
« Laissez-moi réfléchir. Oh, mais je ne vous ai rien offert. Puis-je vous servir quelque chose ?»
Charles ouvrit la bouche pour acquiescer, mais Agatha le devança.
« Je crains que nous n'ayons pas le temps. »«
Vous pourriez interroger la vieille Mrs. Ryan ? Son cottage est juste derrière les parcelles. Elle pourrait avoir entendu quelque chose ?»«
Excellente idée !» s'exclama Agatha en bondissant sur ses pieds. « Allons-y, Charles !»
Agatha remonta en voiture, Charles fit le tour, mais se ravisa soudain au moment où il ouvrait la portière.
« Je reviens, j'ai oublié quelque chose. »
« Oh non !» pensa Agatha en le voyant rebrousser chemin. « Il n'a rien oublié du tout. Il va lui proposer un rendez-vous. »
Elle s'examina dans le rétroviseur. Elle avait les yeux cernés et une petite ride bien visible sur sa lèvre supérieure. En fouillant dans son sac, elle s'aperçut qu'elle n'avait rien pour rectifier son maquillage. Des feuilles rouges et dorées dansaient sur la route devant la voiture et un arbre à demi dénudé levait ses branches vers le ciel bas comme pour déplorer la fuite de l'été. L'année s'enfuyait et avec elle tout espoir pour Agatha Raisin de trouver un compagnon digne de ce nom. Maintenant que Gérald, l'idole au pied d'argile, avait déserté le royaume de ses illusions, Agatha n'avait plus personne à qui rêver. Charles, inconstant, infidèle, entrait et sortait de sa vie comme il l'entendait. Mais il était tout ce qui lui restait. Un grand élan de pitié pour elle-même la submergea.
« Du nerf !» s'admonesta-t-elle en se secouant.
« Pourquoi ?»
Charles se glissait à côté d'elle. Agatha tressaillit. « Je pensais à quelque chose et je ne t'ai pas entendu rêver. Tu l'as retrouvé ?»«
Quoi donc ?»«
T'as oublié ? Ce que tu étais retourné chercher ?»
« Oh ça, mon étui à cigarette !»«
Tu l'as retrouvé ?»«
Non, j'ai dû le laisser à la maison. »«
Tu y es retourné pour l'inviter à sortir avec toi, n'est-ce pas ?»«
Et alors, est-ce que cela te regarde ?»«
Si ça ne me regarde pas, alors pourquoi tu mens ?» grommela Agatha.
« On va la voir, cette petite vieille, oui ou non ?»
Agatha s'apprêtait à répliquer, mais renonça et prit la direction des jardins. Mrs. Ryan était une très vieille dame. Ses mèches de cheveux grisâtres laissaient apparaître son crâne rose. La peau de son visage ressemblait à du papier gaufré et ses yeux gris étaient comme délavés. La tête un peu penchée de côté, elle écouta Agatha et Charles se présenter.
« Veuillez passer au salon. »
« Comme dit l'araignée à la mouche, » susurra Charles à Agatha qui l'ignora.
Ils suivirent leur hôtesse dans une petite pièce obscure où les 4 barres d'un radiateur électrique rougeoyaient dans la pénombre.
L'espace exigu était occupé par une armée de chaises aussi raides que dures et de guéridons de bambou dont les pieds trop minces ployaient sous le poids de photographies encadrées. Il y avait aussi une grande table près de la fenêtre où une antique Olivetti trônait parmi des liasses de feuilles.
Je suis en train d'écrire mon autobiographie. J'ai eu une vie très intéressante, annonça Mrs. Ryan avec un coup d'œil à la machine.
Ma pauvre, si vous n'êtes pas une célébrité, personne ne s'en souciera, songea cyniquement Agatha avant de demander à haute et intelligible voix.
La nuit où Mrs. Boole a été jetée dans le puits, avez-vous entendu quelque chose ?
En fait, oui. J'allais en parler aux policiers. Ils étaient presque à ma porte quand ma vieille teigne de voisine, Mrs. Andrews, leur a dit « Si j'étais vous, je la laisserais tranquille. Elle est gaga. Je voudrais bien voir sa tête quand elle recevra la lettre de mon avocat. J'ai porté plainte pour diffamation. »
« Vous avez bien raison, » commenta Charles. « Et qu'avez-vous entendu au juste ?»«
Eh bien d'abord, oh, est-ce que je peux vous offrir quelque chose ?»«
Non !»
rugit Agatha, qui s'excusa aussitôt d'une voix plus douce. « Désolée d'avoir crié, mais j'ai absolument besoin de nouveaux éléments. »
« C'est la ménopause, mon petit. Ça vous chambarde toutes les hormones. »«
Je vous en prie, racontez-nous ce que vous avez vu ou entendu, » reprit Charles, qui redoutait une explosion de fureur d'Agatha.
« Il devait être environ 4 heures du matin. J'ai le sommeil très léger. Et j'ai été réveillée par une espèce de crissement qui venait des potagers. J'ai regardé par la fenêtre. » Et j'ai repéré une silhouette noire qui poussait une brouette jusqu'au vieux puits. Elle a enlevé le couvercle et jeté quelque chose de lourd dedans. Je ne me suis pas douté que c'était un corps. J'ai cru que c'était quelqu'un qui se débarrassait de ses ordures et j'avais l'intention de m'en plaindre.
Avez-vous entendu des cris ou quelque chose de ce genre ? Demanda Agatha.
Non, et c'est pourquoi j'ai pensé que c'était des détritus. Je voulais le tirer à la police. Et j'attendais qu'il passe, quand cette peste de voisine leur a raconté ses bobards. Ça m'a ôté l'envie de leur en parler. À cause de ces calomnies, ils auraient pensé que j'avais tout inventé.
« Pourriez-vous nous décrire la personne qui poussait la brouette ?» demanda Charles.
« Il faisait très sombre, pas très grande. Elle était habillée tout en noir, je pense. »
« On dirait bien que Mrs. Boole a d'abord été droguée, » remarqua Agatha. « Nous allons transmettre vos informations aux policiers et leur garantir que vous avez toute votre tête. »«
Revenez quand vous voudrez. Surtout vous, Sir Charles. »
Elle se tourna vers Agatha et un éclair de malice passa soudain dans ses yeux usés.
« C'est votre... »«
Restons-en là, voulez-vous ?» l'interrompit Agatha. Mrs. Ryan haussa légèrement les épaules.
« Allez, sauvez-vous. Laissez-moi mes écritures. »
« Elle allait juste nous demander si nous étions en couple !»
protesta Charles une fois dehors.
« Pourquoi lui as-tu jeté ce regard assassin ?»
Agatha était certaine que la malicieuse vieille dame s'apprêtait à lui demander si Charles, qui n'avait pourtant que 6 ans de moins qu'elle, était son fils, mais elle n'avait aucune intention de l'avouer à l'intéressée. « Il faisait trop chaud dans cette pièce. Je ne me sentais pas bien, » répondit-elle. « Retournons à Mou. Je suis sûre que Bill sera dans les parages. » En effet, Bill, Wilkes, Alice, 2 autres inspecteurs et 2 agents étaient en conciliabule sur la place du village. Ils les rejoignirent.
« Ah, voilà le duo de choc !» ironisa Wilkes. « Décampez et laissez-nous faire du vrai travail de policier. »«
Cela ne vous intéresse pas de savoir que Mrs. Boole a été droguée avant d'être jetée dans le puits ?»«
Parfait, viens Charles !»«
Attendez !»
hurla Wilkes.
« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»
« S'il vous plaît. »«
Expliquez-vous sur le champ !»
tempêta Wilkes.
« Ou je vous fais arrêter pour entravage. »«
Oh bon, bouclez-la et ouvrez grand vos oreilles !» lança Agatha avant de leur raconter leur découverte. Wilkes l'écouta attentivement puis se tourna furieux vers les 2 agents.
« On vous avait bien ordonné d'interroger les femmes des 2 cottages à côté des parcelles, non ?»«
Oui, chef, mais la voisine de Mrs. Ryan nous a dit que la pauvre vieille était gâteuse. »«
Est-ce que c'est vrai ?» demanda Wilkes.
« Pas plus que vous et moi, » répondit Charles.
Wang et Peterson, allez immédiatement prendre sa déposition.
« Un petit merci serait le bienvenu, » insinua Agatha.
Blenkinsop, emmenez-moi ces deux-là à la voiture et notez leur déclaration, commanda Wilkes à un de ses hommes. Bonne journée, Mrs. Raisin.
Qu'il aille au diable, grommela Agatha.
Une fois les formalités exécutées, Agatha déclara. Je ferai volontiers un sort à un gin tonic. Charles lui rappela qu'elle devait conduire et le ramener à Carsley. Agatha s'inclina de mauvaise grâce. En se retrouvant seule, chez elle, après le départ de Charles, Agatha fut assaillie par un sentiment de solitude. Elle le refoula de son mieux et se rasérina en câlinant ses chats. Il était regrettable d'avoir dû céder à Wilkes une information aussi précieuse. Mais elle n'avait pas à sa disposition les ressources de la police. À l'hôpital, il pourrait désormais effectuer des prélèvements pour rechercher des traces de narcotiques dans le sang de Mrs. Bull. Après une dernière caresse aux deux matous, elle les repoussa gentiment. Quelque chose la tourmentait, sans qu'elle parvienne clairement à l'identifier. Elle se mit à arpenter la pièce avec une horrible grimace de concentration. Tout à coup, son visage s'éclaira. La dalle de pierre! Il avait fallu un levier et toute la force de Charles pour la fendre et la déplacer. Elle vérifia le numéro de téléphone de Mary Feathers et l'appela. Avez-vous vu l'heure? Protesta Mary. J'ai juste une question à vous poser. Qu'est-ce qui recouvrait le puits? Était-ce une dalle de pierre?
Non. C'était une vieille grille toute rouillée, sans doute en place depuis le début du 19e siècle, je suppose.
Agatha la remercia et raccrocha. D'où provenait donc cette dalle? Traînait-elle déjà dans les parages? Après avoir drogué Mrs. Bull, qui aurait pu avoir la force de la mettre dans une voiture, puis de la transférer dans la brouette et de soulever une dalle de pierre par-dessus le marché? La sonnerie perçante du téléphone brisa le fil de ses pensées. C'était Nigel Faraday.
Je viens seulement de me rendre compte de l'heure. Est-ce que je vous réveille?
Non, non, pas du tout.
Je me demandais si ça vous dirait un petit dîner en tête-à-tête demain soir.
Agatha n'hésita que quelques secondes.
Avec plaisir? Où et quand? La vie en rose, à Mercer, un Français qui vient d'ouvrir, à côté de l'hôtel Georges.
Parfait, j'y serai.
Si antipathique que soit Faraday, songea-t-elle en raccrochant, il pourrait peut-être lui livrer des détails utiles sur les fréquentations de Pita. La journée du lendemain fut tout entière occupée par les menus besognes qui permettaient à l'agence de tourner au quotidien. Adolescents disparus, animaux de compagnie perdus, vol à l'étalage et divorce. Agatha décida de laisser provisoirement de côté l'affaire Billington et d'aider ses collaborateurs à venir à bout de leur dossier. L'après-midi tirait à sa fin lorsqu'elle s'aperçut qu'elle n'avait plus le temps de rentrer se changer pour le dîner. Or, elle portait des souliers plats. Même s'il ne s'agissait que d'un rendez-vous avec un homme qu'elle n'appréciait guère, Agatha ne se sentait pas dans son assiette sans ses talons hauts. Elle se remaquilla et se rua au magasin de chaussures le plus proche où elle acheta une paire d'escarpins vernis noirs à talons. Nigel Faraday se leva en la voyant entrer et passa la main sur ses cheveux blancs en déclarant
« Vous êtes bien trop séduisante pour être détective. »
Agatha le remercia d'un pâle sourire. « Je n'étais encore jamais venue ici, » remarqua-t-elle en parcourant du regard le restaurant. La salle était si faiblement éclairée qu'elle craignit de ne pas pouvoir déchiffrer la carte. Nigel l'assura que c'était le dernier endroit branché en date. Mais aux yeux d'Agatha, il n'y avait d'endroit branché qu'à Londres.
Un apéritif?
Un gin tonic.
Ma chère, ils ont d'excellents vins. Vous allez vous détruire les papilles.
Un gin tonic, répéta Agatha au garçon en faisant la sourde oreille.
Moi, j'attendrai le vin, dit Nigel. Et maintenant, chère Agatha, qu'est-ce qui vous tenterait?
Agatha étudia le menu avec un abattement croissant. Il paraissait prétentieux. Elle décida de s'en tenir au plus simple et opta pour du saumon fumé suivi de moules marinières.
Oh là là, il va falloir du vin blanc, s'exclama Nigel. Et moi qui comptais sur un bon merlot.
Prenez-le quand même, je m'accommoderai très bien de vin rouge avec le poisson.
Nigel commanda une douzaine d'escargots et un steak tartare, une bouteille de merlot pour lui-même et un petit carafon du vin blanc de la maison pour Agatha. Quand le garçon se fut retiré, Nigel se pencha au-dessus de la table.
Dès le moment où je vous ai rencontré, j'ai senti passer un certain « je ne sais quoi » entre nous.
« Formidable !» répliqua promptement Agatha. « J'en conclus que vous voulez bien m'aider à découvrir l'assassin de Pita ?»
Un air de petit garçon boudeur se peignit sur les traits de Nigel.
« Par exemple, » poursuivit Agatha,
Dites-moi si elle était du genre à susciter des envies de meurtre.
Pita se considérait comme une enfant terrible. Au début, j'ai trouvé ça charmant, mais j'avais des ambitions politiques. Et le jour où elle s'est affichée sur l'esplanade du Parlement accoutrée en gothique, j'ai compris qu'il fallait que je me débarrasse d'elle.
Vous débarrassez d'elle?
Je ne veux pas dire la liquider. J'ai embauché un détective privé et découvert qu'elle avait un amant, si bien que je n'ai rien eu à payer quand nous avons divorcé.
Avec qui vous trompait-elle?
Une espèce de voyou qui travaillait dans un atelier de mobilier sur mesure.
Son nom?
Voyez-vous ça, quelle suite dans les idées? Je ne m'en souviens pas. Mais le magasin se trouvait à Camden, quelque part derrière le marché.
Et comment s'appelait l'agence de détective?
Enquête Atkins. Margaret Street, vers Oxford Circus. Ah, voilà nos hors-d'œuvre.
Agatha fixa avec consternation son saumon fumé. Une mince tranche de poisson cru noyée dans de l'huile d'olive. Je ne pensais pas qu'il existait des restaurants qui puissent rater une assiette de saumon fumé. Je ne peux pas manger ça, dit-elle au garçon. Avez-vous de la soupe?
Nous avons de la crème d'asperge ou du minestrone.
Emportez-moi ça et apportez-moi du minestrone.
Et ne mettez pas ce saumon sur la note,
s'empressa d'ajouter Nigel. Ne m'attendez pas, savourez vos escargots tant qu'ils sont chauds, le pria Agatha. Elle se souvint de ceux que Charles avait commandés pendant leur séjour en France. Ils étaient beaucoup plus gros que les pitoyables bestioles qui garnissaient l'assiette de Nigel. Et ils étaient généreusement nappés de beurre à l'ail, alors que ceux-ci paraissaient tout desséchés. Quant à son minestrone, c'était une portion de bouillon insipide où flottaient quelques légumes. Ni tomates, ni pâtes, et il était à peine tiède. Elle se rappela sévèrement à l'ordre. Elle n'était pas venue pour jouer les gourmets. « Est-il arrivé à Pita de rencontrer Lord Bellington ?» demanda-t-elle. Nigel tenta d'empaler un de ses gastéropodes qui s'envola et atterrit dans le potage d'Agatha.
« Oh, je suis désolé, » bafouilla-t-il.
« Aucune importance, » balaya Agatha en repêchant le projectile qu'elle déposa dans un verre vide. « Revenons-en à Lord Bellington. »
Deux ou trois fois, elle l'a dragué à mort, mais elle se jetait à la tête de tout ce qui portait un pantalon.
« Et ça a marché ?»
Sûrement pas après la dernière rencontre.
C'était à une réception chez Bellington,
et Lady Bellington lui envoyait un verre à la figure. L'a traité, si je me souviens bien, de sale petite traînée et a menacé de la tuer. À l'époque, je recueillais des éléments pour mon divorce, donc je m'en fichais.
Les plats suivants arrivèrent. Le garçon mélangea théâtralement les ingrédients du steak tartare de Nigel et le couronna d'un œuf qu'il cassa sous leurs yeux. On posa devant Agatha une cocotte de moule. « Vous n'avez pas peur de la vache folle ?» demanda-t-elle. « Toute cette viande crue ?»«
Délicieux !» marmonna-t-il, la bouche pleine.
Quant aux moules d'Agatha, décrites comme « moules de bouchot d'Écosse », elles n'avaient manifestement pas séjourné assez longtemps dans la mer. Ces mollusques microscopiques semblaient à peine éclos. Et la bouteille de Merlot de Nigel se vidait à toute allure. Agatha commençait à se sentir mal à l'aise.
« Vous savez, Agatha, » déclara Nigel, « je sens que cette soirée marque le début d'un lien très spécial. »«
Il vaut mieux que j'y mette un coup d'arrêt tout de suite, » se dit Agatha avec lassitude.
« C'est exactement ce que j'ai ressenti quand Charles a demandé ma main, » répliqua-t-elle.
« Quoi?
Vous êtes fiancée? Vous auriez pu me prévenir?
Et pourquoi ça?
Eh bien, pour commencer, pourquoi vous figurez-vous que je vous ai invité à dîner ?»
Agatha soupira. « Puisque vous êtes mariée, j'ai supposé que vous vouliez m'aider dans mon enquête. » Il avait de nouveau l'air boudeur d'un gamin contrarié. Agatha réfléchit très vite. Il pourrait encore lui être utile à l'avenir.
« Il n'empêche que je vous trouve très séduisant, » ajouta-t-elle.
Cela versa manifestement un peu de baume sur l'amour-propre de Nigel.
« Mais je ne peux pas rivaliser avec un baronnet célibataire, hein ?»«
Hélas non, » sourit Agatha. Elle l'interrogea sur son quotidien de député et il se mit à causer librement d'une voix de plus en plus pâteuse. Agatha refusa de prendre un dessert, mais Nigel se fit apporter le plateau de fromage afin d'avoir un prétexte pour continuer à boire. Il desserra sa cravate et retira sa veste. Enfin, après une tasse de café immonde, il réclama l'addition. Il la vérifia de très près, puis s'exclama d'un air consterné.
« J'ai oublié mon portefeuille !»«
Oh, montrez-moi donc cette note !» fit Agatha avec résignation. Le restaurant était si sombre qu'elle sortit une petite lampe électrique de son sac et jeta un coup d'œil sur le papier.
« Excusez-moi, je dois d'abord aller me refaire une beauté, » dit-elle.
Elle se leva sans éteindre sa torche, dont le faisceau lumineux éclaira la veste de Nigel, suspendue au dossier de sa chaise. Elle distingua le portefeuille qui dépassait de la poche intérieure. En passant près de lui, elle s'en empara et le lui rendit. « Mais le voilà ! Vous êtes rassuré maintenant, n'est-ce pas ?» Quand elle revint, Nigel était d'une humeur massacrante. « Bonne nuit » articula-t-il d'un ton rogue au sortir du restaurant, et il s'éloigna en titubant vers sa voiture. « J'aimerais bien qu'il se fasse intercepter par la police, » songea Agatha. En gagnant le parking, elle aperçut Nigel qui téléphonait assis dans l'auto, la glace baissée. Elle s'approcha pour écouter en se cachant derrière un autre véhicule.
« Oui, sergent, une certaine Agatha Raisin. Je ne connais pas son numéro d'immatriculation, mais il figure sans doute dans vos fichiers. Peu importe mon identité, je suis juste un citoyen responsable. Il faut débarrasser la route de ces ivrognes !»« Nom d'un salopard à sonnette !» grommela Agatha. « Voyons, un carafon de vin et un gin tonic. Mieux vaut prendre un taxi. Mais on peut être deux à jouer à ce petit jeu. En tant que citoyenne responsable, elle attendit que Nigel ait démarré, releva son numéro, puis se rendit à la cabine téléphonique la plus proche et le dénonça à la police pour conduite en état d'ivresse. Après quoi, elle héla un taxi. Quand le taxi s'arrêta devant chez elle, elle vit de la lumière au salon. Charles. Ce devait être Charles. Personne d'autre n'avait le code de l'alarme, excepté sa femme de ménage. En ouvrant la porte, elle entendit le bruit de la télévision. Charles dormait profondément, allongé sur le canapé. Elle le réveilla d'une secousse.
« Hein, Agatha ? Alors on s'octroie du ventan ?»
Agatha délogea sans douceur les jambes de son ami et s'assit à côté de lui.
« Je viens de passer une soirée horrible en tête-à-tête avec Nigel Faraday dans un restaurant minable. »«
À quoi t'attendais-tu ? » ?»«
J'espérais glaner quelques informations supplémentaires sur Pita. » »«
Mais comme il commençait à me coller d'un peu trop près, » je lui ai dit que nous étions fiancés.
C'est bien soudain. J'aurais pensé que tu avais assez d'expérience pour refroidir ses ardeurs sans mentir.
Je ne voulais pas le décourager complètement avant d'en avoir tiré quelque chose. Il a même essayé de me faire payer le dîner en feignant d'avoir oublié son portefeuille. Mais je l'ai repéré dans sa poche de veste et je le lui ai rendu. Il était fou de rage. Sur le parking, je l'ai entendu me signaler à la police pour conduite en état d'ivresse. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce et je suis rentrée en taxi. Quelle soirée!
Mais est-ce que tu as appris quelque chose?
Seulement qu'il avait employé une agence de détective et découvert que Pita le trompait avec un gars qui travaillait dans une fabrique de mobilier sur mesure. J'irai à Londres demain. Je ne m'en donnerai pas la peine si je n'avais pas le sentiment que ce meurtre est lié à celui de Bellington.
Je t'accompagnerai, promit Charles en étouffant un bâillement. Au lit maintenant. Un petit câlin à ton fiancé avant de dormir, ça te dirait?
Non! Départ à 9h. Quand Charles fut monté se coucher, Agatha téléphona à Tony et lui donna les consignes pour le lendemain.